Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Binge audio.
Salut les mauvaises personnes. Peut-être que vous faites partie des chanceux qui, quand ils ont lu le titre de cet épisode, « Peut-on apprivoiser la peur de la mort ?», se sont dit « Moi, je n'ai pas peur de la mort. » Moi aussi, j'ai longtemps dit ça. Freud, même si on ne garde pas tout de ce qu'il a dit, était assez clairvoyant sur ce coup-là. Il expliquait que notre propre mort nous est impossible à réaliser. Nous nous pensons tous immortels, inconsciemment. Et tant mieux, quelque part. Sinon, à quoi bon s'échiner à aimer, souffrir, rire, apprendre, se planter ? Tout ça pour qu'un jour, il ne reste plus rien de nous. Plus que quelques poussières que le temps dispersera, quelques souvenirs que les générations oublieront. Je dis chanceux parce qu'il y a des événements de la vie qui viennent trucider cette croyance, qui viennent jeter toute leur lumière cruelle sur cette vérité que nous nous échinons à éviter. Nous sommes tous et toutes de passage. Moi, pour ceux qui me connaissent, vous savez de quel événement je parle. Je parle d'un apéro un samedi soir, une soirée qui commençait comme toutes les autres. Ma main dans le paquet de Pringles vert, saveur crème et oignon, la chips que je porte à ma bouche, mon autre main qui cherche mon téléphone, cachée dans les replis d'un canapé. Je veux regarder l'heure. Nous sommes le 24 mars, il est 20h29. Tiens, j'ai 12 appels en absence. Maman. Mais qu'est-ce qui se passe ? Tiens, j'ai un message sur WhatsApp. Un message sans aucune ponctuation, d'un seul tenant. Presque comme un seul mot. Rappel, c'est papa. C'est très grave. Je parle du sel du Pringles qui a irrité la peau de mes joues quand j'ai pris ma tête entre mes mains, quand j'ai compris. Nous sommes le 24 mars, il est 20h30, et le monde tel que je le connaissais n'existera jamais plus. Alors, oui. Pardonnez-moi, mais je vous appelle chanceux, ceux qui peuvent encore dire qu'ils n'ont pas peur de la mort. Parce que moi, ensuite, j'ai mis à peu près 5 ans à retrouver le doux édredon du déni de la finitude de la vie. De celle de ma mère, de tous mes proches, et la mienne aussi. Le deuil donne accès à une lucidité qui est psychiquement ingérable. Mais vous savez quoi ? Le déni revient, et je suis très fière de vous annoncer que je n'harcèle plus ma mère quand elle met plus de 30 minutes à répondre à un message, que je ne me réveille presque plus la nuit parce que je rêve que mon cercueil se renferme sur moi. Mais une chose, plus jamais de ma vie, je ne ramènerai de Pringles à un apéro. J'espère que vous me pardonnerez, mes très chères mauvaises personnes, pour cette introduction très triste et très personnelle. J'ai du mal à retenir mes larmes au moment où je vous parle. Parce qu'aujourd'hui, nous allons aborder un sujet vraiment pas facile, je vous préviens, on va pas faire semblant. Mais nous allons tâcher de le faire avec douceur et clairvoyance. Parce que nous sommes tous ici sûrs d'une chose, cette vie vaut quand même la peine d'être vécue, même si nous allons perdre les gens que nous aimons et que nous aussi, nous allons mourir tôt ou tard. Comment vivre avec la peur de la mort, la nôtre et celle des autres ? Après tout, avoir peur de la mort n'est-il pas parfaitement raisonnable ? Cette peur n'est-elle pas non plus ce qui nous nourrit, nous pousse à agir, nous accomplir ? Pour tenter de répondre à ces questions existentielles, je suis comme d'habitude accompagnée de mes chaleureux acolytes, Coco Spina. Salut Coco !
Salut, bonjour à tous.
Coco est journaliste, elle va co-animer avec moi cette discussion. Alors hélas, Coco, aujourd'hui tu es à distance, mais tu nous amènes le bon air de Marseille, le Mistral dans ta voix.
Malheureusement, il pleut très fort.
Ah mince, pas de Mistral. C'est adapté au thème de notre
exactement,
émission.
Exactement, exactement.
Et Samuel Doc, comme d'hab, salut Samuel.
Salut Judith.
Samuel, tu es psychologue clinicien et auteur de plusieurs ouvrages, dont « Les chemins de la thérapie ». Et notre invitée de notre édition spéciale mort, c'est Catherine Audibert. Bienvenue Catherine.
Bonjour à tous.
Catherine, tu es psychologue clinicienne d'orientation psychanalytique, si je ne dis pas de bêtises, et autrice du livre « Le temps de la perte », qui est à la fois un essai et le récit de la perte de ton fils suite à un accident de voiture. Merci beaucoup d'être avec nous pour parler d'un sujet aussi sensible. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Alors si c'est possible, si on y arrive, si on n'y arrive pas, eh bien, écoutez, ce ne sera pas grave. Mais j'aimerais qu'on essaye de diviser notre discussion entre deux peurs. La peur de notre mort à nous, et puis ensuite la peur de la mort de nos proches et la question du deuil. Donc Samuel, ma première question s'adresse à toi. De quoi parle-t-on profondément ou psychiquement quand on parle de la peur de la mort, de la peur de mourir?
Eh bien, il faut d'abord, je pense, différencier la peur de l'angoisse et de l'anxiété. C'est ce que je souhaiterais faire. D'abord, il faut le dire à nos auditoristes, c'est que la peur, c'est une émotion absolument naturelle. Voilà, c'est une émotion qu'on ressent, une émotion primaire, même les enfants la ressentent, elle nous suit toute la vie. Et par rapport à l'introduction justement que tu as ouverte devant nous, on pourrait même penser qu'il est bien normal d'avoir peur de sa propre disparition. L'angoisse, qu'on confond parfois avec le terme d'anxiété, ça désigne une peur sans objet, en tout cas sans objet réel, apparent et défini. Voilà, c'est ça qu'on entend par angoisse, et c'est vrai qu'on parle plus fréquemment d'angoisse de mort que de peur de la mort.
Ah, c'est donc l'angoisse de mort qui peut devenir un peu... C'est normal, par exemple, j'imagine, si je suis au bord d'une falaise, d'avoir un instinct de survie qui me dit, attention, de ressentir cette peur que, à la moindre bêtise, ma mort peut être imminente. Mais ce qui peut être pathologique, c'est de ressentir cette crainte d'être au bord d'une falaise tous les jours, n'importe où, même dans un pré.
Alors, c'est pas sûr, parce que, par exemple, on peut penser à ce philosophe, Kierkegaard, qui expliquait que notre espèce est la seule à avoir conscience qu'elle disparaîtra, a priori, on le suppose, et qu'il est bien normal, face à un tel vertige, d'éprouver une peur de la mort. Et c'est pour ça que ces concepts-là sont importants. Mais je reviens à mes petits éléments de définition.
Vas-y.
Parce que c'est vraiment très important, c'est que lorsqu'on parle d'anxiété ou d'angoisse, pour cette émission, je vais les lier, ça désigne à la fois des symptômes qui sont psychiques, c'est-à-dire des peurs et un envahissement psychique, mental, et en même temps des symptômes physiques, avec par exemple des battements de cœur plus élevé, une hausse de la pression artérielle, des tremblements. Et si nos auditoristes voilà, sont sensibles à cette question, je crois qu'il est vraiment important de pouvoir repérer ce qui appartient à l'angoisse. Si à un moment donné, la personne a peur de la mort au point que cela entrave sa possibilité à jouir de la vie, si ça limite ses interactions aux autres ou son travail, là nous sommes plus dans le registre de l'angoisse, de l'anxiété.
Coco ?
Oui, mais est-ce que ce n'est pas le propre de l'humain d'avoir peur de la mort?
Oui, Catherine, par exemple, est-ce que tu as une opinion là-dessus?
Oui, ben forcément, oui. La mort, c'est ce qui nous attend tous. On en prend conscience relativement tôt. Enfin, un enfant de 5 ans a déjà conscience de la finitude. Enfin, du fait que quand on dit que quelqu'un est mort, c'est irréversible. C'est plus seulement comme si on dormait. Non, là, on ne se réveillera pas. Donc, effectivement, on est travaillé toute la vie par ça, parce qu'il faut bien l'intégrer quand même, cette idée de la finitude, et ce n'est pas forcément évident pour tout le monde. Ça dépend aussi des expériences de vie qu'on a, parce que quand on est confronté à la mort de l'autre, voire même à la sensation de sa propre mort, du fait de maladie, du fait d'accident quand on est enfant, on n'a pas eu le temps de maturer suffisamment ce qui nous permet d'intégrer la notion de mort et de finitude, justement. C'est une angoisse existentielle qui est universelle. On la connaît tous, cette angoisse-là. Alors, plus ou moins, et selon les parcours de chacun, de manière plus ou moins importante, plus ou moins... envahissante.
Samuel ?
Mais j'entends tout à fait, et je suis d'accord avec Catherine, un grand choc peut conduire justement à changer notre rapport à la mort. Mais, et là je le dis à destination de nos auditeuristes, certaines personnes peuvent avoir des angoisses de mort immenses sans jamais avoir perdu qui que ce soit. Et là, cette angoisse vient peut-être signifier quelque chose de plus profond que simplement une angoisse de mourir.
Oui, mais alors justement, enfin, si je peux
Catherine.
Me permettre, Moi, je rapporte ça quand même à ce que le psychanalyste et pédiatre Winnicott nommait comme étant les angoisses impensables du nourrisson, et qui sont peut-être ce qui nous permet d'imaginer ce qui va être après dans la vie, certaines angoisses, et notamment l'angoisse de mort.
C'est-à-dire... les angoisses impensables du nourrisson ?
Alors, il faut se dire que le nourrisson est dans un état de dépendance totale à son environnement. Et certaines expériences peuvent lui faire ressentir justement
à quel point il est vulnérable,
de proximité avec la mort, à travers certaines sensations qu'il peut ressentir. Et quand un bébé est trop exposé à des sensations comme celle-là, voilà, ça peut créer des symptômes, voire pire, des maladies psychiques ultérieurement, dont font partie aussi les angoisses de mort.
J'aimerais vous parler d'un livre qui, je pense, si on s'intéresse aux questions de la mort, c'est le plus beau livre jamais écrit sur cette question, selon moi, selon mon jury littéraire personnel, qui est La mort d'Ivan Illich, donc de Tolstoï, et qui décrit les trois derniers jours de vie d'un homme condamné à mourir et qui le sait. Et j'aimerais prendre le temps de vous en lire un petit extrait. Je vais me concentrer pour bien lire. Il avait appris dans le traité de logique de Kiesewetter cet exemple de syllogisme. Caius est un homme, tous les hommes sont mortels, donc Caius est mortel. Ce raisonnement lui paraissait tout à fait juste quand il s'agissait de Caius, mais non quand il s'agissait de lui-même. Il était question de Caius ou de l'homme en général, et alors c'était naturel. Mais lui, il n'était ni Caius, ni l'homme en général, il était un être à part. Il était Vania avec maman et papa, avec Mitya et Volodia, avec ses jouets, le cocher et la bonne. Avec toutes les joies et tous les chagrins et tous les enthousiasmes de son enfance, de son adolescence et de sa jeunesse. Est-ce que Caius avait jamais senti l'odeur de la balle en cuir que Vania aimait tant ? Caius avait-il jamais baisé la main de sa maman ? Avait-il eu du plaisir à entendre le froufrou de sa robe de soie ? Était-ce lui qui avait fait du tapage pour des petits gâteaux à l'école ? Était-ce Caius qui avait été amoureux ? Caius est mortel, c'est certain, et il est naturel qu'il meure. Mais moi ? Moi, avec tous mes sentiments, toute mon intelligence, moi, c'est autre chose. Il n'est pas du tout naturel que je doive mourir. Ce serait trop affreux. C'est bouleversant, je trouve que il n'y a rien de plus juste. Enfin, moi, je trouve que c'est un des textes, enfin, je ne sais pas, j'ai jamais été mourante, mais je pense que c'est exactement ce qu'on ressent. Samuel, je te vois opiner.
Oui, c'est un de mes textes préférés. Je le trouve effectivement, moi aussi, bouleversant. Et ce qui est très intéressant, c'est que je trouve que tu as choisi un des extraits les plus forts de cette grande nouvelle. Et ça fait écho exactement à ce que Catherine décrivait, c'est-à-dire qu'on ne peut pas penser la mort sans revenir aux origines. Catherine donnait l'exemple de Winnicott, mais on retrouve la même chose chez Freud, quand il parle de l'angoisse de séparation du nourrisson. Chez Lacan, quand il parle de la difficulté aussi à se séparer de la mère et à manquer. Penser la fin, c'est toujours penser le début.
Oui, je pense que de toute façon, puisque le mot avait été prononcé tout à l'heure, apprivoiser la mort, il faut avoir intégré un sentiment de sécurité suffisant. Et si on ne l'a pas, c'est là que les angoisses peuvent être envahissantes, voire très envahissantes.
Est-ce que vous avez déjà eu, vous, en tant que thérapeute, sans bafouer le secret professionnel, un patient, des personnes vraiment confrontées à une maladie très grave, qui savent qu'elles vont mourir ? Comment est-ce que c'est possible de gérer une telle situation ?
C'est pas tellement face à des patients qui ont une maladie comme le cancer, qui savent qu'ils vont mourir, que j'ai perçu ces angoisses de mort.
Finalement, c'est...
Non. Plutôt chez les patients phobiques, parce que, voilà, par exemple, une phobie de l'avion, c'est quand même s'imaginer que l'avion va se crasher et que tout le monde va mourir dans l'avion. Donc, il y a quelques symptômes comme ça qui sont tout à fait en lien avec les angoisses de mort, alors que des gens confrontés plus directement à la mort, je dirais, sont en train de faire un travail qui leur permet justement de ne pas être envahis par des angoisses de mort.
Ah bon, c'est possible ? C'est des Dalai Lama, vos patients.
En tous les cas, toutes les personnes que j'ai pu suivre, enfin qui étaient des patients et puis qui à un moment donné, voilà, ont déclaré une maladie mortelle. Finalement, alors c'est peut-être aussi pas du fait qu'ils étaient en thérapie à ce moment-là et qu'on a pu élaborer tout ça et que j'ai pu faire le dernier chemin avec eux finalement. Mais ces angoisses de mort, elles ont pu être présentes à certains moments, mais pas autant que quelqu'un qui est phobique et qui a des angoisses de mort très régulièrement.
Samuel, je te...
Oui. Tu as cité Tolstoï. Moi, je pense à Dostoïevski qui explique, par exemple, dans un de ses livres, qu'un condamné à mort est emmené à l'échafaud et que jusqu'au bout, il se dit « il me reste encore 10 minutes à vivre, il me reste encore 5 minutes. À ce coin de la rue, il me restera encore quelques secondes. » Et je crois que les personnes, en tout cas, moi, ça me fait... C'est l'écho que je trouve quand je vous entends. Quand j'ai travaillé avec des personnes qui avaient des maladies, effectivement, mortelles, raccrocher, c'est-à-dire que il reste encore du temps de vie. Ce qui n'est pas la même chose, et ça on y reviendra plus tard, lorsqu'il s'agit de perdre un proche. Et je pense à mon travail en cardiologie pédiatrique avec des parents qui perdaient leurs enfants. C'est un autre sujet.
Et mais je suis très impressionnée par ce que vous dites, que c'est possible en fait finalement d'apprivoiser ou d'aller vers l'idée de sa propre mort avec une forme de sérénité. Je pensais que c'était presque surhumain, moi, de faire ça.
Alors moi, je parle pas de moi. Hein. Moi, je suis terrorisée.
Non, pas vous.
Non,
mais des patients que vous avez suivis. Moi, je pensais que c'était impossible, que c'était une image qu'on avait de je sais pas, de stoïcien, de sage, mais qu'en réalité, c'était impossible que tout le monde se chiait dessus, quoi. Désolée de parler crûment, mais...
mais je pense que quand on fantasme, justement, on est beaucoup plus angoissé que quand on est confronté à la réalité.
La Colette disait que la mort n'est qu'une banale défaite. Je crois que pour ces personnes, ce n'est plus qu'une banale défaite.
Coco ?
Oui, moi, j'aurais bien aimé que Samuel, par exemple, approfondisse un peu ces phobies qui sont liées à la peur de la mort. Donc, la phobie du vide, du silence, ces phobies-là.
Oui, alors c'est vrai que moi j'en souffre beaucoup, même à titre personnel. C'est bien, je vais perdre tous mes patients d'ailleurs une fois qu'ils auront écouté l'émission, c'est chouette. Alors c'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle la thanatophobie, hein, la peur phobique de la mort, avec vraiment cette idée qui en réalité s'apparente plus à un trouble obsessionnel. C'est-à-dire que c'est une pensée, une rumination qui va revenir, tourner en tête. Moi par exemple ça me le fait, des fois je regarde un film et je vois un personnage qui meurt et mon souffle se coupe, mes poumons se serrent et je me dis, oh mon Dieu, un jour le néant. Voilà, ça c'est ma propre phobie, thanatophobie. Il y a l'apérophobie, alors qui n'est pas du tout la peur de l'apéro, mais bien la phobie du néant, et l'astrophobie, même la peur de ce cosmos qu'on rejoindrait après de mourir. Il existe différentes formes de peur obsessionnelle, et là où Catherine a tout à fait raison, c'est qu'effectivement, ce sont souvent les personnes qui les éprouvent, les personnes qui sont très 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 dans le contrôle, et dans cette peur de la mort, ce qui arrive, c'est la peur de jouir, la peur de vivre, et la peur de perdre le contrôle. En réalité, c'est une sorte de démenti à notre contrôle. En tout cas, moi, je crois que c'est aussi ce qui apparaît un petit peu me concernant.
Alors attends, la peur de mourir, ce serait la peur de vivre selon toi ?
Ah, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, puisque vivre implique de lâcher le contrôle et de se laisser aller à un moment donné. Et quand on a peur de mourir, c'est bien qu'on se cramponne quelque part à chaque seconde d'existence et donc on ne vit pas, puisqu'on est attentif à la vie qui est en train de se passer. Du moment où je vais mourir, je serai plus concerné, ça y est, j'aurai quitté la partie. La mort ne nous concerne pas en réalité. Du moment où elle nous... Je caricature. Du moment où elle nous arrive, elle cesse de nous concerner, à partir du moment où elle survient. Si j'y pense, c'est bien que je ne suis pas en train de vivre mon existence, de l'investir, c'est bien que je suis en train de penser à sa fin, et donc que je suis dans quelque chose qui s'apparente à un contrôle.
Je pense que c'est impossible de vivre sans avoir parfois des pensées sur quand est-ce qu'on va mourir, est-ce que ça va être un accident, est-ce que ce sera une maladie, est-ce que ce sera dans longtemps. C'est quand même une des réalités les plus insupportables avec lesquelles on doit tous composer.
Bien sûr, mais il y a des échelles, tu vois, il y a des moments où ça peut devenir véritablement obsessionnel.
Oui, c'est sûr, si ça t'empêche de sortir de chez toi tous les jours, c'est ça.
Moi, je vois que les moments où j'ai eu des angoisses de mort les plus violentes, c'était justement des moments où j'étais dans une routine, 8h-21h de consulte, aucun lien social, je pense par exemple au confinement où on ne faisait que travailler, et en fait, je ne vivais plus, et c'est là en fait que j'avais peur de mourir, ce qui est très paradoxal.
Alors, j'aimerais citer un extrait de ton livre, Catherine, sur justement, peut-être que cette conscience de ne pas être éternelle est aussi une force que nous avons. Tu cites le psychanalyste Maurice Korkos, qui dit que l'éternel et l'éphémère doivent rester fantasmatiques. Il faut être un savant équilibriste pour ne pas vivre obsédé par l'idée de la mort et pourtant l'intégrer en arrière-fond de sa conscience, afin d'éviter les dangers, se soigner, se protéger. Le narcissisme et les pulsions de vie sont ainsi intimement liés. Il faut s'aimer assez pour avoir le désir et la force de reculer le moment de la mort. C'est très beau, tu peux nous en dire un peu plus ?
D'ailleurs, justement, je pensais à l'adolescence qui est peut-être le moment où on intègre l'idée que on n'est pas immortel. Peut-être qu'avant, on peut avoir ce fantasme-là. À l'adolescence, il faut pouvoir justement intégrer le fait qu'on n'est pas immortel pour pouvoir prendre un certain nombre de risques pour vivre, comme disait Samuel, parce qu'on ne peut pas rester à ne rien faire.
Pourtant, c'est à l'adolescence qu'on fait les conneries un peu...
Bien sûr, mais justement, c'est ce moment charnière où on est prêt à faire beaucoup de conneries qui, des fois, nous mettent en danger. C'est vrai qu'à l'adolescence, il faut avoir un peu de chance, des fois, parce qu'on peut aller très loin dans cette prise de risque. Mais en même temps, c'est là où on commence à intégrer le fait qu'effectivement, on n'est pas immortel et qu'il faut peut-être faire un peu attention. Et c'est cet équilibre qu'on trouve à ce moment-là entre vivre et puis ne pas se mettre en danger pour ne pas perdre la vie bêtement.
Et c'est aussi peut-être cette conscience de ne pas être éternel et que le temps nous est compté. Pardon, je suis vraiment... c'est aussi ce qui nous pousse. Moi, c'est une grande force de me dire il y a certaines choses que je veux accomplir dans ma vie et j'ai pas toute la... Enfin, si, on a toute la vie devant nous, certes, mais on n'a pas non plus 500 ans, quoi. Donc, ça pousse à se mettre des coups de pied au cul.
C'est le moteur de toutes les créations, y compris la procréation. Enfin,
oui, exactement.
Oui, j'attendais d'ailleurs que tu en parles, Catherine, du rapport à la sexualité et à la mort qui peut-être ne saute pas toujours aux yeux, mais il y a quand même cette idée Eros dialogue avec Thanatos. Mmh. Oui.
Coco.
Justement, j'avais une question pour toi, chère Judith. Oui. Dans ton intro, tu dis qu'après 5 ans de deuil, le déni revient. Mais tu dis aussi que le deuil nous confronte à une hyperlucidité qui est insupportable. Est-ce que c'est donc le déni qui revient? Ou bien est-ce que c'est une forme d'acceptation, peut-être de sagesse, qui s'instaure et qui justement nous permet d'accomplir des belles choses, des grandes choses?
Ah, disons, c'est pas facile d'être de l'autre côté, mais je pense qu'on a envie de croire dans notre monde que quand on est confronté à des expériences extrêmement difficiles, on est récompensé en sagesse ou on est récompensé en maturité, ce qui est peut-être un peu vrai, mais ce qui, moi, m'agace personnellement. Parce que j'aurais préféré ne pas vivre ça, même si ça m'a peut-être changé ma personnalité. Et je pense que la particularité des deuils violents qui ne sont pas précédés d'une maladie ou quoi que ce soit, c'est qu'on est ramené à la réalité de la fragilité de l'existence et qu'on est ramené très concrètement en fait, qu'à chaque fois qu'on voit quelqu'un, c'est peut-être la dernière fois, parce que maintenant on l'a vécu, qu'on a fait « Ah, ciao, bisous, à la semaine prochaine !» Et en fait, il n'y aura pas de semaine prochaine. Et quand on le sait, ça, quand on le vit, après, c'est horrible de l'avoir tout le temps en tête. C'est insupportable. Mais pourtant, il n'y a rien de plus vrai, il n'y a rien de plus juste. C'est peut-être la dernière fois qu'on se parle, c'est peut-être la dernière fois que vous écoutez ce podcast, c'est peut-être la dernière fois, c'est peut-être ma dernière journée sur cette planète. Mais se le rappeler ça tous les jours, c'est horrible. Enfin, moi, je trouve, c'est pour ça que je dis que c'est une lucidité insoutenable. Et je pense, non, être revenu au confort du déni des gens normaux. Mais c'est le déni qui permet de vivre. Je crois que se dire qu'un jour on atteint une sagesse qui fait qu'on n'a plus peur de la mort, c'est pour moi une posture orgueilleuse qu'on a peut-être souvent à 20 ans, mais c'est pas grave, on a le droit d'être orgueilleux à 20 ans. Enfin, moi j'étais comme ça. Les gens que j'aime, je les aime tellement que quand ils seront morts, en fait, je serai contente de les avoir connus. Je disais ça. Je crois que personne n'arrive à ce niveau-là de sagesse, même pas le Dalai Lama, vu que j'en parle beaucoup aujourd'hui. On a peut-être besoin de croire que la sagesse va nous aider à gérer l'épreuve de la perte des autres, etc. Mais c'est pas vrai. Moi, je crois qu'on va tous pleurer, trembler. Face à la mort, on est tous comme un petit bébé abandonné sur une aire d'autoroute, selon moi. À tous les âges de la vie.
Merci pour ta réponse, vraiment.
Et moi, j'avais une question pour vous aussi, du coup, j'enchaîne, pardon. Il y a un très beau livre qui est d'un psy, qui s'appelle Irvin Yalom, qui est un livre qui s'appelle Thérapie existentielle, qui est à destination des thérapeutes, mais que tout le monde peut lire, enfin, en tout cas, que moi, j'ai lu. Et dedans, il explique que les hommes et les femmes n'ont pas la même conscience de la mort. Les femmes, avec la maternité et le fait d'être sociabilisées comme des proies, ça, c'est moi qui rajoute ça, c'est pas lui qui dit ça, mais ont bien plus conscience de la finitude de la vie. Et les hommes ont plus davantage des comportements un peu trompe-la-mort, sport extrême, moto sans casque, etc. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez, vous, en tant que thérapeute aussi, cette différence genrée de l'approche de la fin de notre vie?
Moi, je citerais Beckett qui disait que les femmes accouchent à cheval sur une tombe, c'est-à-dire que quand elles donnent la vie, elles savent qu'elles donnent la mort aussi.
Ouais.
Donc il y a, je pense... une perception de la finitude qui n'est pas la même, peut-être, chez les hommes et chez les femmes, du fait de cette possibilité qu'ont les femmes d'enfanter.
Samuel ?
Peut-être, mais peut-être aussi, je ne sais pas, c'est vraiment une hypothèse, c'est pas du tout, j'ai pas de certitude, mais si je pense à mes patients hommes, je pense que dans certains cas, il peut y avoir quelque chose d'une forme de castration quand même, c'est-à-dire de perdre la puissance virile avec la mort. Je veux dire, c'est quand même une force qui nous rétame tous.
Ah, pour le coup, là.
La finitude, c'est, je veux dire, c'est la première de toutes les pertes et la dernière en même temps, la plus importante
la plus
de toutes.
Castration.
Donc, donc total, malgré tout, ici, ouais. Voilà, on perd quand même un certain objet viril, un objet de pouvoir, le corps qui se dégrade aussi avant la mort, dans certains cas. Et ça, je sais que voilà, c'est plus difficile à traverser pour les hommes que pour les femmes.
Dans un monde macho, tu veux dire, du coup, les hommes ont plus de mal à accepter l'idée de la mort parce que ça leur coupe leur surpuissance
exactement,
masculine.
Exactement, ils n'en ont pas triomphé. Oui,
ouais, c'est
tout
ça.
À fait. Oui.
Ouais, c'est OK. Donc, en fait, toutes ces démonstrations un peu trompe-la-mort, c'est aussi pour dire, moi, j'ai tellement une grosse bite que je dépasse la mort. Quoi.
Exactement, c'est une sorte de conduite de réassurance presque contraphobique, on pourrait dire. Oui, tout à fait.
Coco ?
Oui, moi, j'avais une question pour Catherine. Dans ton livre, tu écris « La mort ne s'oppose pas à la vie, mais à la naissance ». Et je voulais savoir qu'est-ce que tu entends par là.
Alors, c'est pas forcément moi qui le dis comme ça. Je l'ai lu pas mal chez les anthropologues. Et effectivement, je trouve ça assez pertinent parce que le début de la vie, c'est la naissance et la fin de la vie, c'est la mort. Donc, voilà, entre la naissance et la mort, il y a un début et une fin. Et c'est peut-être comme ça, effectivement, qu'on doit concevoir les choses.
Et est-ce que cela trouve un écho dans votre pratique psychanalytique ?
Ah oui, forcément. Enfin, moi, en tous les cas, la question de la mort, ça a toujours été une question importante, je trouve, dans les cures avec mes patients. Peut-être davantage que les questions de sexualité, de castration, d'Oedipe. Pour moi, ça a toujours été peut-être la question numéro un. Le fait que, effectivement, il faut faire ce chemin d'intégration de l'idée de la mort, de l'idée de la finitude et du fait que on n'est pas tout puissant. Et je pense que depuis la mort de mon fils, bon, puisque là, il en est question dans le livre que vous avez cité, ça a été encore plus évident pour moi, vis-à-vis de mes patients, de pouvoir traiter ces questions-là.
C'est hyper intéressant ce que tu dis. On s'imaginait pas que c'était la question numéro un dans les cabinets de psy, cette peur, justement, ou le fait de devoir composer avec ça. Mais en fait, c'est ce qu'on a de plus universel, tous aussi.
Oui, après, bon, tous les psys n'entendent pas toujours la même chose. Et bon, on fait le psy avec
oui.
ce qu'on est, je dirais. Mais bon, pour moi, c'est une question vraiment essentielle.
Et est-ce que le d'avoir traversé le décès de ton fils, ça a changé ton rapport à ta propre mort, à la peur de ta mort ?
Alors moi, j'étais un peu comme Samuel, j'avais très peur de la mort. Enfin, en tous les cas, j'ai des souvenirs de moi, enfant, me couchant le soir et me disant, il ne faut pas que je me couche dans telle position parce que ça va inciter la mort à arriver. Enfin, voilà, je n'adoptais pas la position du gisant parce que je me disais
ah oui.
que je n'allais pas me réveiller, que j'allais rester comme ça et que j'allais être morte le lendemain matin. Bon, après, évidemment, voilà, on avance dans la vie, y a des choses qui mûrissent. Encore que, bon, à l'adolescence, je pense que si j'ai pris beaucoup de risques dans mon adolescence, alors que les risques, c'est plutôt les garçons qui les prennent et pas autant les filles, si j'ai pris beaucoup de risques, c'était un peu une façon de conjurer justement la peur de la mort. Mais en tous les cas, elle m'a quand même poursuivie un peu toute ma vie. Et quand j'ai perdu mon fils, là, j'ai été tellement près de la mort. J'ai tellement désiré, finalement, mourir, moi aussi, que pendant toute une période, pendant des années, j'avais plus peur de la mort. Elle me faisait plus peur du tout. C'était même... Je me la représentais comme un lieu ami, puisque mon fils était dans la mort. Et en fait, maintenant que je suis de nouveau davantage du côté des vivants, je sens que la peur de la mort revient un peu. Et c'est peut-être ça qui me dérange un petit peu maintenant.
Pardon, je mets quelques secondes parce que je trouve ça très beau, tout ce que tu viens de dire. Pour clôturer peut-être cette discussion vraiment juste sur le thème de la peur de notre mort, après on enchaînera sur la peur de perdre nos proches, et on reviendra bien sûr plus en profondeur sur ton expérience de la perte de ton fils. Coco, tu avais une histoire très forte à nous partager sur la peur de ta propre mort.
Oui, alors merci de me donner la parole sur ça. Voilà, je vais prendre le temps de raconter parce que c'est vrai que c'est des sujets délicats. Mais voilà, le 4 février 2022, j'ai appris que j'ai une maladie auto-immune rare qui est incurable, qui s'appelle sclérodermie. C'est une maladie vraiment très rare. En France, on parle de quelques dizaines de milliers de personnes. C'est-à-dire que vous avez presque plus de chances de gagner la loterie que d'avoir cette maladie. Voilà, bingo.
Faut que tu joues, Coco.
Ouais, faut que je joue. Du coup, les symptômes de cette maladie sont apparus en 2020, après une période de stress très intense. Et les médecins ont direct relié l'inflammation et la manifestation de cette maladie à un état de stress post-traumatique. Donc évidemment, le diagnostic a été accompagné d'un grand sentiment d'injustice, comme si je vivais la quadruple peine de choses pas très agréables que j'avais vécues. Donc avant, je pensais rarement à la mort, et comme tout le monde, je vivais dans une forme de déni. Et je faisais vraiment semblant que la mort n'existait pas au sein de mon entourage, un peu comme l'exemple de Vania, etc. Vraiment, c'était très inconcevable pour moi de savoir que j'allais mourir. Mais alors, ce qui est incroyable, c'est que je me rappelle très bien que le jour du diagnostic, ça a été comme prendre une douche froide dans un jour d'été très, très chaud. Ça m'a vraiment remis les idées en place. Mais pour répondre à ce que Judith et Catherine vous avaient dit tout à l'heure sur le fait que les personnes malades ou celles qui sont le plus proches de la mort, finalement, n'ont pas si peur de la mort. En fait, moi, l'effet que ça m'a donné, c'est pas tant de flipper. Ça, c'était mes parents qui se sont complètement effondrés. Moi, ça a été vraiment une douche froide, en mode, OK, comment je m'organise? Qu'est-ce que je vais faire? Ça a été ultra pragmatique. Je suis pas absolument pas en train de dire que j'ai dépassé en 3 secondes la peur de la mort. Il y a eu plein de nuits où j'ai pleuré, j'ai imaginé mes funérailles, les musiques, j'ai dit, vas-y, je vais faire mon testament et tout. Enfin, bref, mais... ça m'a quand même donné des moments de lucidité assez magnifiques. Et aujourd'hui, je pense à la mort tous les jours parce que, en fait, cette maladie laisse des traces sur mon corps, notamment sur mes mains, qui sont aussi mon outil de travail. Et c'est un peu comme un memento mori. Et donc, souviens-toi que je suis là, que tu vas mourir. Et voilà, après, maintenant, c'est comme si j'étais un peu soit revenue dans une forme de déni, même si quand les symptômes sont plus accentués, je sens qu'elle est là, quoi. Mais j'ai aussi une forme de calme qui s'est quand même instaurée, qui n'est pas l'absence de la peur, mais qui est une forme d'acceptation, enfin, je ne sais pas, de jouissance de la vie, peut-être. Et après, je pratique beaucoup la méditation, mais enfin, je pense que chacun et chacune gère comme il peut. Et la méditation n'est pas la seule voie pour gérer la peur de la mort.
Je me permets juste de t'interrompre dans ton récit. Avant qu'on enchaîne sur la méditation, j'aimerais poser une question aux invités sur ton récit. Sur justement cet éclair de lucidité ou de clairvoyance, tu disais tout à l'heure, Catherine, qu'affronter les choses, c'était parfois moins dur que les fantasmer, enfin, en termes de ressources psychiques. Est-ce que c'est un peu ce qui se passe là pour Coco, selon vous ?
J'ai l'impression, oui, parce que quand elle dit « je me suis organisée », c'est un peu ça, c'est ce que j'ai souvent vu quand les gens ont une maladie qui risque d'être mortelle à plus ou moins long terme, ils s'organisent, ils mettent leurs affaires en ordre et ils vivent.
C'est incroyable ce que vous dites, parce que c'est vrai que depuis un an, je suis beaucoup plus rangée. Vraiment, j'ai un truc d'ordre très important dans ma vie. Et justement, je voulais rebondir sur le fait qu'en fait, Si je me permets de raconter cette anecdote qui est finalement assez intime, c'est parce que je pense vraiment qu'il y a peut-être parmi nos auditeurices des personnes qui ont ce même vécu, qui ne savent pas comment en parler. Je pense que voilà, c'était le bon moment pour le raconter. Et justement, moi, ça me rassure beaucoup de vous entendre, Samuel, et toi, Catherine, autour de cette question. Vraiment, ça m'a fait beaucoup de bien tout ce que vous avez dit jusqu'à maintenant.
Samuel, et après Coco.
Ça répond aussi à ce que nous évoquions précédemment sur ce qui se travaille en psychanalyse. La psychanalyste Ginette Rimbaud disait que toute situation de deuil vient réveiller du non-symbolisé. Qu'est-ce que ça vient signifier ? C'est que quand on parle de mort, on parle peut-être pas tant de mort que de perte, que de deuil, que de renoncement. Là, quand tu parles, Coco, ce que j'entends, c'est que tu as dû faire cette renonciation absolument terrible d'avoir un jour une bonne santé. Tu parles des symptômes physiques qui sont les tiens, qui sont handicapants. Le deuil, ça a été une invitation à parler, à penser, à voir ce que cela réveillait en toi. Et c'est ce que nous faisons, nous, psychologues, c'est que nous offrons à nos patients des occasions de se représenter ce qui leur est extrêmement douloureux. Le deuil, la mort, en réalité, nous invite encore une fois à penser nos origines, à penser nos désirs, à penser nos choix, à penser à notre identité. C'est une invitation à réfléchir et à vivre. Et ce qui est très intéressant, et je finirai là-dessus, c'est que quand Freud parle d'angoisse de mort, il ne parle pas de l'angoisse de mourir en réalité. Il parle d'un retour à un état inorganique avant la naissance. Ce serait en fait une crainte de régresser à ce qu'il y a avant la vie. Donc en somme, finalement, je crois que penser la mort, c'est toujours penser chaque nouveau départ de notre vie, chaque deuil.
Coco, tu voulais évoquer le rôle de la spiritualité dans ton apprentissage ?
Oui, alors oui, mais je tiens à souligner d'abord que vraiment, c'est parce que j'ai une super bonne psy que j'aborde ça aussi avec du calme. Et donc,
comment elle s'appelle vraiment,
Elle s'appelle Isabelle.
Salut Isabelle.
Voilà. Et elle est géniale et vraiment, c'est parce qu'elle est là aussi que tout ça se passe plus ou moins bien. Moi, après, personnellement, et ce n'est que moi, depuis 2019, je pratique la méditation presque tous les jours et le yoga. Et j'ai lu récemment un livre du moine zen Thich Nhat Hanh qui s'appelle Le miracle de la présence mentale et qui est un manuel de méditation. Et en fait, ce qui a été un tournant pour moi, après plusieurs pratiques de méditation, c'est pas la première pratique qu'il faut faire, mais j'ai trouvé une méditation sur la mort. Et en fait, je me suis dit, bon, bah voilà, je commence à faire cette méditation sur la mort. Et en fait, l'idée d'apprivoiser, de visualiser mon corps, de l'âme qui le quitte, etc., en quelque sorte, m'a un peu apaisée. Le plus je côtoie cette idée, le mieux ça se passe. Mais du coup, je me posais la question... pensez-vous que dans une époque sans spiritualité, on ait peut-être davantage peur de la mort ?
Samuel ?
Oui, ben là, franchement, je pense tout de suite au théologien Mircea Eliade qui disait que finalement, le sacré, la spiritualité nous apporte des réponses à ces trois questions fondamentales qui sont « Qui suis-je ? Où vais-je ? Et pourquoi j'existe ?» Finalement, être dans le sacré ou dans l'esprit, c'est essayer de répondre à ces questions. Or, dans une société où finalement tout s'achète, tout se vend, tout se consomme, tout est éphémère, il est drôlement difficile de trouver un appui sur cette spiritualité qui n'a pas de corps, qui n'a pas d'objet en réalité, qui est un mouvement. Donc oui, ce que tu avances là trouve un très fort écho en moi. C'est difficile de lâcher prise, c'est difficile dans une société capitaliste, je trouve, de faire face à la mort. C'est peut-être pas pour rien qu'on l'invisibilise autant dans notre société. Elle n'est pas très rentable.
On entend souvent l'expression « avoir peur de finir seul » ou « de mourir seul ». Et j'aimerais vous poser la question, c'est vraiment la question la plus déprimante de l'épisode, je pense. Est-ce que c'est un espoir vain ? Est-ce qu'on ne meurt pas toujours forcément tout seul, Catherine ?
Bah, on est seul fondamentalement, hein. On est seul, on vit seul et on meurt seul forcément. C'est nécessairement une expérience absolument de solitude. Maintenant, c'est vrai que ce qu'on a envie d'imaginer, c'est que quelqu'un nous tienne la main au moment où on va mourir, parce que peut-être que ce sera moins angoissant justement, peut-être que ce sera moins dur. Mais ça, on peut pas le savoir.
Non. Samuel ?
Je pense que, oui, on meurt peut-être, on peut mourir seul physiquement, mais j'ai l'espoir que dans notre pensée, tous ceux que nous aurons aimés le jour où nous mourrons seront malgré tout avec nous dans ce qu'ils nous auront transmis, dans la chaleur, dans les premiers gestes. Moi, je pense vraiment à ces personnes que j'ai pu rencontrer qui souffraient de la maladie d'Alzheimer et qui étaient vraiment dans des états de délabrement physique et psychique extrêmement importants dans les stades avancés de la maladie. Et pourtant, quand une personne de leur entourage, ils ne savent plus du tout qui c'est, les touche, il s'apaise, il se calme. On voit que les soins sont plus faciles à prodiguer. Il y a une méthode d'ailleurs qui travaille là-dessus qui s'appelle Humanitude, qui est très bien. Ce qui montre que même quand on n'a plus de mémoire, même quand on a tout perdu, il reste quand même une sorte de mémoire du corps, du contact. On n'est pas seul.
Je suis navrée, je suis obligée de vous interrompre quelques petites minutes. On se retrouve tout de suite. Merci beaucoup d'être avec nous, c'est toujours Self-Care ta mère, on espère que vous n'êtes pas mort durant cette courte interruption, et si vous êtes toujours en vie, merci d'être avec nous. Je suis en la délicieuse compagnie de Coco Spina, Samuel Doc et Catherine Audibert, et nous sommes en train de parler de la peur de la mort. Catherine, tu as écrit ton livre suite à la perte de ton fils dans un accident de la route. Alors ma question est sûrement un peu maladroite, ou en tout cas je vais essayer d'être le plus délicate possible, mais si je suis maladroite, faut pas hésiter à m'envoyer bouler. Comment fait-on pour vivre quand on a perdu un de ses enfants ?
C'est compliqué à répondre, hein, parce que bon, moi, je l'ai traversé, donc je sais comment j'ai réussi à remonter la pente, comme on dit. Mais bon, après, c'est très subjectif. Voilà, chacun peut trouver sa façon de revivre. Je me suis beaucoup... comme on dit, plonger dans les récits d'autres parents qui avaient écrit sur la perte de leur enfant. J'ai trouvé que voilà, j'avais besoin des mots des autres pour arriver à mettre des mots sur ce que j'étais en train de ressentir, en train de vivre, parce que je n'avais plus de vocabulaire, je n'avais plus rien, je me sentais complètement vide et je ne pouvais plus symboliser ce que j'étais en train de vivre. C'est ça qui est peut-être extrêmement difficile. Alors, c'est là, je parle de la perte de mon fils et donc du deuil, mais c'était une perte brutale. Voilà, ça s'est passé en une nuit. Je l'ai vu le vendredi soir et le samedi matin. Les policiers voilà, nous apprenaient qu'il était mort à 4 heures du matin. Donc, ça a été d'une telle brutalité, j'étais tellement pas du tout préparée à ça que j'ai vécu un traumatisme important. Et donc, du coup, après, les premiers temps du deuil, c'était aussi toute cette période de récupération après le traumatisme, quoi. Donc il y a quelque chose qui s'est chevauché pendant plusieurs mois quand même entre le trauma et le deuil qui était en train de s'installer.
C'est sûrement absurde de chercher à faire cette comparaison, mais on dit souvent, on imagine souvent que le deuil d'un enfant, c'est le pire des deuils qui puisse exister.
Je ne sais pas, je pourrais pas dire. Évidemment, en tant que parent, voilà, c'est notre avenir, notre futur, enfin tout ce qu'on imagine de ce qu'on a envie de vivre après en étant grand-parent. Ma vie, elle était déjà un peu derrière moi. J'avais encore des choses à vivre, mais c'est vrai que j'avais élevé mes enfants. Voilà, c'est eux maintenant qui allaient créer des choses, qui allaient faire leur vie. Et là, il y a eu un moment de rupture qui a été terrible pour tout le monde, pour toute la famille. Moi, j'étais enfermée dans ce choc et dans ce malheur. Donc, j'avais pas non plus tellement la vision de ce qui se passait autour de moi. Je m'en protégeais même parce que j'étais empathique avec ce que les autres pouvaient ressentir et que ça rajoutait à la douleur que je pouvais avoir moi. Mais je ne sais plus ce qu'était le début de la question.
Est-ce que c'est le pire des deuils, mais est-ce qu'on peut savoir finalement?
Je ne sais pas si c'est le pire des deuils, parce que voilà, tout dépend aussi de la structure psychique des gens, de ce qu'ils ont vécu, de leur expérience. Évidemment, un deuil, une perte ne vient pas sur une histoire où il s'est rien passé avant. Mmh. Donc ça va réouvrir déjà les deuils antérieurs, les pertes antérieures, les traumas antérieurs. Et puis, selon la constitution de chacun, ça va être quelque chose qui va créer un effondrement ou pas.
Samuel ?
La dimension, enfin moi, ce qui m'a énormément touché dans ton livre, et ce qui m'a aussi beaucoup touché, Judith, dans ton introduction, qui était vraiment bouleversante, c'est le sentiment de culpabilité, je crois. Quand on a peur de perdre quelqu'un ou quand on a perdu quelqu'un, j'ai pas vécu assez de moments avec lui, qu'est-ce que j'aurais pu faire ? Toi, Catherine, ce qui est très fort, je trouve, dans ton roman, c'est que ça prend presque la forme d'une enquête. Que s'est-il passé ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Et c'est aussi ça qui nous empêche, quelque part, de faire le deuil. Je sais que j'utilise une formule très ramassée et très simpliste, et j'en ai vraiment conscience, c'est dans le cadre là, direct. Mais c'est ce sentiment de culpabilité, encore une fois, qui nous rattache quelque part à cette personne qu'on n'arrive pas à perdre, à laisser partir. Et c'est ce que je trouve de concordant dans vos deux témoignages.
Absolument, ouais. Ouais,
je pense que, du coup, on a vécu quelque chose d'à peu près similaire quand même, Catherine, qui est la mort du jour au lendemain, celle qui débarque par effraction, sans aucun signe avant-coureur. Donc toi, c'était un accident, moi, c'était une crise cardiaque foudroyante. Je pense que ce type de deuil demande un travail quand même psychique supplémentaire. Parce qu'il y a toute la culpabilité de ne pas avoir su que c'était la fin, de ne pas avoir su que c'était la dernière fois, les regrets que ça entraîne, c'est quand même, je trouve, un type de deuil qui est particulier, non ?
Oui, et puis la culpabilité en tant que parent, même si mon fils est un adulte, en tant que mère, je ne pouvais pas me faire à l'idée qu'il puisse partir avant moi, mais en plus de ça... Dans mon boulot de mère, il fallait que je le protège et que je sois là jusqu'au bout, quoi. Donc il y avait quelque chose, de très dénarcissisant à plein de niveaux. C'est-à-dire que c'est l'échec total, quoi. Quand une mère perd son enfant, c'est l'échec total. C'est quelque part, elle peut imaginer qu'elle perd tout. Bon, après le fait que je sois là à en parler prouve que non, j'ai pas tout perdu, mais enfin, j'ai eu le sentiment de tout perdre quand même pendant plusieurs années. J'étais folle à certains moments. J'ai perdu complètement les pédales parce que cette obsession, effectivement, de mener une enquête, de tout savoir, de tout comprendre, ça fait que à certains moments, on est complètement à côté de la plaque. On n'est plus dans la réalité. J'étais plus que dans le monde des morts. Il y avait plus que ça qui m'intéressait. Et puis, au moment, enfin, les jours qui ont suivi sa mort, j'avais des hallucinations. Donc, Freud l'explique aussi. Enfin, voilà, cette espèce de psychose hallucinatoire, là.
Il l'explique comment ?
Ah, je ne pourrais pas retrouver par cœur la citation.
L'ombre de l'objet est tombée sur le
ça,
moi.
C'est en ce qui concerne la mélancolie, parce qu'effectivement, après, le deuil peut prendre une allure mélancolique, justement du fait de ces auto-accusations, du fait de cet état catatonique dans lequel on peut tout d'un coup se retrouver. Mais le refus de cette mort fait que on hallucine. On hallucine celui qui est parti. J'entendais le bruit qu'il faisait à l'adolescence quand il montait les escaliers.
Moi, je vois encore mon père dans la rue parfois, un quart de seconde.
Voilà, c'est ça. Ouais. Je sentais l'odeur qu'il avait quand il était bébé. Il y avait tout un tas d'hallucinations comme ça qui faisait que je... En même temps, on est accompagné encore... il y a quelque chose de vivant dans ces hallucinations du mort, mais on a l'impression de devenir fou, quoi, tout simplement.
Coco ?
Oui, Catherine, dans ton livre, tu racontes la douleur de cette perte. Mais tu fais le constat qu'en fait, dans la langue française, même dans d'autres langues, en fait, ça n'existe pas un mot pour définir la perte d'un enfant. Qu'est-ce que les parents qui perdent un enfant deviennent ? C'est-à-dire qu'on peut dire des enfants orphelins, quelqu'un qui devient veuf ou veuve. Et voilà, quel mot vous pourriez mettre là-dessus ?
Y a beaucoup de gens qui cherchent. Moi, j'ai pas encore trouvé non plus. Il y avait un mot qui est le désenfantement, qui a été repris un certain nombre de fois, mais qui ne plaît pas à tout le monde. C'est toujours pas rentré, je pense, dans la langue française. En tous les cas, je ne crois pas que ce soit dans un dictionnaire. Non, on n'a pas trouvé ça existe hein, dans d'autres langues. Hein. En hébreu, ça existe. On n'a pas encore trouvé. Je pense que tous les parents endeuillés cherchent un mot pour pouvoir se définir. Parce que, mine de rien, c'est comme si on faisait partie d'une communauté un peu silencieuse, parce qu'on se voit pas trop les uns les autres. Enfin, il existe des groupes de parole hein, de parents endeuillés auxquels moi j'ai pas participé, mais en tous les cas, je pense que à un moment ou à un autre, tous les parents endeuillés ont envie qu'il y ait un mot qui puisse les représenter, et il y en a toujours pas. Donc voilà, on est un peu.
Tu disais tout à l'heure que tu étais devenue folle dans justement cette épreuve du deuil, mais quelle autre réaction t'aurais pu avoir ? Est-ce que la folie est parfois la réaction la plus rationnelle à une situation ?
Mais moi, je trouve que c'était une folie bénéfique, de toute façon. Et je pense qu'elle était même indispensable, incontournable. Voilà. Ça faisait partie, d'ailleurs, Alouche, le psychanalyste qui disait ça, c'est que finalement, cette folie, elle fait partie du deuil aussi. Voilà. Le deuil qui est le plus inquiétant, c'est le deuil qui est complètement figé. Mais moi, je pense que le deuil, de toute façon, il ne s'arrêtera jamais. Il sera toujours au travail. Voilà, c'est un travail psychique et il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Et puis, je vois bien, avec les autres pertes que j'ai eues dans ma vie, que même à mon âge, ça continue à travailler. Voilà, pas tous les jours, mais à certaines périodes, ça se remet au travail. Donc je pense que cette perte-là, je continuerai toujours à la travailler. C'est certainement pas fini. Mais en tous les cas, toutes les périodes que j'ai traversées, y compris les périodes de folie, je pense que
ça
faisait partie du deuil.
Et quand tu dis folie, ça veut dire... Je suis désolée, mais ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire...
Parce que j'étais plus dans la réalité. Mm-hmm. J'étais plus... Moi, je le dis, je le disais et je le dis encore, je ne faisais plus partie du monde des vivants. Voilà, j'étais dans un autre monde et j'ai bien senti que justement, tout ce chemin de deuil, c'était retrouver progressivement une place dans le monde des vivants, c'est-à-dire voilà, reprendre ma place dans le monde des vivants, faire cohabiter ce que je peux avoir dans la tête, c'est-à-dire effectivement la mort de mon fils, son absence, le manque que ça peut représenter, et puis la douleur qui est toujours présente. Faire cohabiter ça avec des grandes joies, une énergie qui est revenue, une préoccupation pour tous les vivants qui m'entourent, des projets, des choses à construire, de nouvelles créations. Et à un moment donné, le rapport était inversé, mais ça y est maintenant. Bon, il faut du temps hein, pour ça, hein, ça ne vient pas en 5 minutes, il faut quelques années.
Et quand tu étais dans le cœur de la douleur, le cœur de la crise, est-ce qu'il y avait des choses qui t'apaisaient ?
Au tout début, alors on nous invite à parler, effectivement, pour symboliser voilà, ce qu'on est en train de traverser, ce qu'on peut avoir dans la tête, mais c'était pas ce qui me soulageait de plus. En fait, j'avais besoin qu'on s'occupe de mon corps, me faire masser... Voilà, me sentir bien physiquement, c'était un peu comme un nourrisson. Enfin voilà, j'étais dans une période très régressive où j'avais besoin qu'on s'occupe de moi comme d'un bébé, enfin qu'on me nourrisse, qu'on me cajole, qu'on me berce, que je sois bien au chaud, que j'ai pas froid, qu'on me fasse des caresses, et c'était la seule chose qui pouvait vraiment m'apaiser, pas durablement, mais en tous les cas, qui me faisait le plus de bien.
Je trouve ça très beau ce que tu dis et je pense que c'est quelque chose de très important aussi pour les auditeuristes, ou quand parfois on est confronté à un proche qui est dans le deuil, on se dit il faut que je trouve les mots pour l'apaiser, etc. Comme s'il y avait des mots qui pouvaient apaiser. Et je pense que parfois une tasse de thé, une accolade, c'est bien plutôt que de dire des trucs maladroits qui vont blesser peut-être plus qu'autre chose. Enfin, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important à avoir en tête, Samuel.
Oui, et justement, parfois j'ai l'impression, et c'est ce qui ressort un peu dans ton livre, Catherine, parce que tu listes un sacré paquet de bêtises
que les gens t'ont dit, mon Dieu.
Tu as pu dire, et je pense que ça intéressera beaucoup nos auditeuristes. Mais parfois, parfois, je crois que la personne parle pour se rassurer elle-même face à la perte de l'autre. Parfois, juste être là et se taire, c'est déjà ça le plus gros effort. Ne rien dire plutôt que de bombarder la personne de remarques dont elle ne saura de toute façon pas quoi faire.
Mais je trouve assez fou, moi, quand on est confronté... Pardon, je ramène tout à moi, mais voilà, c'est un sujet qui me concerne aussi. Quand on est confronté au deuil, donc on voit vraiment la maladresse des gens et il y a des trucs, t'as l'impression d'être dans un film. Moi, j'ai le souvenir d'un pote qui me fait un monologue de 40 minutes en disant « Tu me parles quand tu veux, tu vois, si tu veux me parler, je suis là, machin. » Mais qui me laisse pas en placer une. Fait que j'étais là, ok, bon. Donc, du coup, tu te retrouves parfois dans cette situation qui est absurde de devoir consoler l'autre parce qu'il sait pas quoi te dire. Et en fait, il y a un moment, les gars, je rends les armes, là. C'est trop, quoi. Et je trouve ça complètement... Enfin, vraiment, ça fait partie des douleurs, je trouve, du deuil. C'est à quel point on n'est pas... On devrait se dire comment se consoler, parfois, et se ramener au béaba, des choses les plus simples.
De plus, perdre un enfant, ça, c'est quelque chose qui fait tellement peur. Enfin, voilà, les autres parents sont, enfin, quand ils sont confrontés, voilà, au fait qu'un ami vient de perdre un enfant, ceux-là, ils se disent, ouf, c'est pas moi, j'y ai échappé. Et en fait, ils sont la plupart du temps tellement mal à l'aise avec ça que effectivement, ils ont des paroles malheureuses. La plupart du temps, quand il s'agit d'amis, moi, je leur en veux pas. Hein. Quelquefois, c'était beaucoup plus dur. On se sent un peu pestiféré à un moment donné. C'est-à-dire que la douleur, le malheur, et ce malheur-là particulièrement, il éloigne les autres. Et c'est vrai que moi, je l'ai très bien senti que des amis, effectivement, des personnes que je considérais amies n'ont pas su quoi faire de cette histoire-là et peut-être ont eu tellement peur ou se sont sentis tellement mal à l'aise qu'on ne les a plus revus.
Samuel ?
C'est aussi peut-être le problème, au-delà de l'individuel, là encore, c'est peut-être un problème qui concerne le collectif, c'est-à-dire que dans notre société, nous sommes tous crispés sur nos corps, qui est voué à mourir, crispés sur nos égos, sur nos écrans, sur nos narcissismes. Nous ne bénéficions plus, comme certaines générations précédentes, d'un discours qu'il vaille, peu importe ce qu'il vaut, religieux ou politique sur la mort. L'anthropologie de la mort aujourd'hui est bien faible. On ne sait plus penser la mort, on ne sait plus la parler. Et regardez, pendant l'épidémie de coronavirus, nous avions des chiffres. Tant de personnes infectées, tant de personnes décédées. À aucun moment, il y a véritablement eu d'échanges, de débats, de prise de conscience de ce que c'était que toutes ces morts.
Collective.
Voilà, il n'y avait rien, il n'y avait que des chiffres. Voilà ce qu'est la mort aujourd'hui, des chiffres. Quand on parle de la guerre en Ukraine, il en va de même. Comment concevoir aujourd'hui que nous ne puissions pas être, comme tu dis, je reprends ton terme, pestiférés quand nous faisons cette expérience absolument terrible du deuil d'un proche, alors même que toute notre société ne supporte pas la mort.
Oui.
Impossible, impossible.
Ce que je voudrais rajouter, c'est qu'il y a un paradoxe, parce que tout le monde est d'accord pour dire « c'est dommage, il n'y a plus de rituel, on a peur de la mort, on ne laisse pas les gens faire leur deuil, etc. » Mais finalement... À côté de ça, on valorise beaucoup le fait, on valorise beaucoup les personnes qui emmerdent pas les autres avec leur malheur.
Ah oui, ceux qui souffrent dignement.
Voilà, ceux qui souffrent dans la dignité.
Cette expression, déjà, elle est, ça veut dire quoi ? Il y en a qui souffrent indignement, elle est atroce.
Ouais. Et du coup, on ne permet pas aux gens qui sont dans la douleur de pouvoir l'exprimer, cette douleur. C'est compliqué, je pense que justement. La question des deuils pathologiques, elle découle aussi de là.
Alors, c'est quoi le deuil pathologique ? Expliquer ce que c'est.
Il y a des critères dans le DSM qui sont au bout de je ne sais pas combien de temps.
Dans le manuel de classification des troubles mentaux, le DSM-5, il est dit qu'un deuil devient pathologique lorsqu'il dure plus de 6 mois.
Non, mais ça, franchement.
Ce qui est absolument, et Judith, je te vois réagir, aberrant. Comme si on pouvait quantifier et qualifier une douleur.
La question, ce n'est pas la durée en plus, parce que, moi, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je considère que le deuil, il n'a pas forcément de fin. Voilà, ça se travaille toute la vie. Mais en tous les cas, effectivement, il peut y avoir des formes pathologiques qui peuvent se voir dès le départ. Mais ça, tout de suite, effectivement, s'il y a des auto-accusations trop fortes, s'il y a des risques suicidaires de la personne endeuillée, il faut prendre la chose au sérieux. On n'est pas dans un deuil ordinaire. Mais en tous les cas, je pense que le fait, justement, qu'on ne laisse pas la possibilité aux endeuillés de vivre leur deuil correctement, de pouvoir en faire quelque chose et pas de retourner au travail très vite comme si de rien n'était, ça favorise les deuils pathologiques, forcément. On est sous médicaments assez rapidement quand on est en deuil. Le médecin généraliste nous le prescrit, nous le propose en tous les cas, très très rapidement pour qu'on puisse retourner au travail.
Oui, ce qui veut tout dire. Coco, vas-y.
Oui, je voulais juste demander à Catherine sur la question du deuil pathologique. Tout à l'heure, vous avez parlé de la culpabilité des parents face à la mort de leur enfant. Mais que dire, par exemple, si là, il y a des personnes qui nous écoutent, qui ont connu cette expérience, que dire à celles et ceux qui nous écoutent et qui éprouvent la même chose, comment est-ce qu'on peut, en quelque sorte, leur montrer qu'en fait, ce n'est absolument pas de leur faute, qu'il n'y a pas de culpabilité à avoir? Est-ce qu'il y a une manière au quotidien d'apaiser ce sens de culpabilité et de ne pas, du coup, tomber dans un deuil potentiellement pathologique?
La culpabilité, elle a ses vertus aussi, je dirais, pour traverser le deuil. Et moi, en tant que psy, justement, quand j'ai affaire à des personnes endeuillées, des parents endeuillés, ça m'est arrivé un certain nombre de fois, je pense que, justement, je ne dois pas leur dire « mais non, vous n'êtes coupable de rien ». Il faut l'entendre se déployer, cette culpabilité, ce sentiment de culpabilité. Il faut comprendre d'où est-ce qu'il vient et qu'est-ce qu'il a à raconter. Et je pense que le laisser s'exprimer, justement, ça permet plus facilement aux gens endeuillés de s'en défaire.
Moi, ça m'apaise énormément ce que tu dis, parce que moi, je ressens énormément de culpabilité, parce que peu de temps avant la mort de mon père, je savais pas du tout qu'il allait mourir, je m'engueulais tout le temps avec lui parce qu'il était en train de virer macroniste, ce qui me semblait la pire chose qu'il pouvait faire. Et si j'avais su que c'était peut-être les dernières fois qu'on allait se parler, j'aurais parlé d'autre chose. Je crois que j'aurais dit combien je l'aimais et combien je le remerciais pour tout ce qu'il m'avait transmis, etc. Et je vis avec ce regret de pas avoir suffisamment dit et de m'être pris la tête sur la politique juste avant sa mort. Et tout le monde me dit, il ne faut pas regretter. Moi, mais comment veux-tu que je ne regrette pas? Évidemment que je le regrette. Et on peut vivre avec des regrets aussi. J'aimerais qu'on accepte. Oui, tu vis avec ce regret. Putain, il doit être lourd à porter, quoi. Plutôt que de me dire, ne regrette pas. Je suis d'accord avec toi, Catherine. Ouais.
Et peut-être aussi que ça vient signifier quelque chose, ce « et si ». Et oui. Si nous ne nous étions pas disputés? Et si j'avais fait ça? Et si j'avais répondu au téléphone? Je crois que toute personne qui a perdu quelqu'un, voilà, peut avoir ce « et si, et si, et si » qui, en fait, devient un langage. Moi, je me suis déjà fâché avec un ami qui, malheureusement, bon, était malade lourdement sur le plan psychiatrique et très mal... Enfin, son traitement était très mal dosé et s'est suicidé quelques jours après notre dispute. Voilà, « et si, et si, et si, et si, et si ». Mon ami Alex, dont je raconte le décès dans « Éloge indocile de la psychanalyse », voilà, je savais qu'il allait à une soirée à laquelle il ne devait surtout pas aller. Et je peux vous dire que et si j'avais pris le taxi pour aller le chercher, eh ben, 3 jours plus tard, je serais peut-être pas allé identifier son corps à la morgue. Voilà, et si. Ce et si est un langage, c'est une langue, et il a sa valeur aussi, justement. Il nous aide aussi, ce et si.
On approche de la fin, mais j'aimerais quand même vous poser une question à vous tous. La mort est-elle finalement la dernière chose qui nous unit tous? Parce qu'on vit dans un monde extrêmement sclérosé, hiérarchisé, etc. Et même si ceux qui ont de l'argent peuvent la retarder le plus possible grâce à des traitements, je sais pas, des médicaments, blablabla. Mais nous allons tous quand même être confrontés à cette perte. La peur de notre propre mort et la mort de la mort des autres. Et nous allons tous pleurer, trembler, peut-être même crier comme un enfant quand on la sentira arriver, quand on sentira sentira peut-être, je ne sais pas, qu'on nous apprendra une maladie en stade final ou qu'on sentira la voiture quitter la chaussée, qu'on sera saisi de cette terreur. Est-ce que c'est finalement la dernière chose qui nous unit ?
Je pense qu'il y en a d'autres, heureusement. Et c'est peut-être pas la dernière, mais en tous les cas, c'en est une, forcément, bien sûr. C'est l'expérience, la perte des autres, c'est une expérience commune. Enfin, il y a peut-être des gens qui commencent à perdre des proches tard dans leur vie, tant mieux pour eux. Il y en a, ça commence très tôt dans la vie, c'est beaucoup plus compliqué. Mais en tous les cas, tout le monde en fait à un moment donné l'expérience. Et l'appréhension de sa propre mort, eh ben, on la ressent tous et toutes aussi. Donc effectivement, il n'y a rien de plus universel. Mais bon, il y a d'autres expériences qui nous réunissent quand même.
Samuel ?
Oui, c'est vrai, moi je pense que tu as raison. C'est vrai qu'il y a aussi des disparités sociales très importantes entre les riches et les pauvres, la manière de mourir. D'ailleurs, les riches se font bâtir des cuvettes voilà, où ils peuvent se cryogéniser. Bon, alors là, avec la crise énergétique, on imagine bien les dégâts de voilà. Voilà, bon, peut-être que ben voilà, du coup, je fais une blague et je suis en train de me dire, en vous faisant cette petite blague de fin d'émission, que finalement, peut-être que l'humour face à la mort, c'est quand même ce qui nous sauve et ce qui nous unit.
Oui.
Pouvoir rire à la face de la mort, c'est quand même un sacré pouvoir.
Coco ?
Non, mais moi justement, Samuel, tu m'as vaguement parlé de ton concept de l'hédonisme de survie et ça m'intéressait de savoir ce que c'était.
Ah, c'est un concept que j'ai développé dans mon livre Le Nouveau Malaise dans la Civilisation et où j'explique que dans une société où on ne sait pas mourir, on essaie de jouir le plus possible, mais que c'est sans fin en réalité. C'est acheter un nouvel objet, vivre une nouvelle expérience, se connecter à un nouveau réseau social, c'est sans fin justement parce qu'on fuit cette perte, parce qu'on fuit ce manque, parce qu'on fuit en fait quelque chose qui concerne notre condition là où elle devrait être pensée. Et Judith, je te remercie parce que c'est ce que tu nous invites à faire avec cette émission justement, penser ce que nous sommes.
Catherine, aujourd'hui, comment est-ce qu'est présent ton fils dans ta vie ? Est-ce que c'est parfois tu écoutes la musique qu'il aimait ? Est-ce que c'est les endroits ? Est-ce que c'est la nourriture ? Est-ce que ça vient au fil de tes pensées ? Comment ça se passe cette relation ?
Bah, j'ai l'impression qu'il est présent en permanence. Voilà, à chaque instant, il est là. Il y a pas besoin qu'il y ait quelque chose qui me fasse penser à lui. Il est là. Voilà, je peux pas dire ça autrement.
Est-ce que tu veux bien nous dire son prénom ?
Jérémy.
Alors j'aimerais te dédier ce podcast, Jérémy, ainsi qu'à tous les fantômes des personnes qui vous manquent, chers auditeuristes. Un grand merci d'avoir été avec nous. On espère vous retrouver le mois prochain. Et si jamais c'était la dernière fois que nous nous parlions, je vous souhaite un agréable voyage vers l'autre rive. Un grand merci à Coco, un grand merci à Samuel et encore un immense merci à Catherine. Merci à Charlotte Bex, notre chargée de production. Et merci à Quentin Bresson, notre réalisateur. À très vite.